dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
Denis Gauthier de retour après une semaine de vacances. Salut Denis, bon retour à la maison. T'étais où?
Salut Tony, c'est Alex. Ouais, mais je suis un peu sur le décalage encore. J'ai fait un merveilleux voyage de ski à Val Thorens en France, dans les Alpes. C'était mon premier voyage de ski. Mes jambes s'en ressentent et le décalage aussi me fait ressentir un peu de fatigue ce matin. Ouais, mais ça valait la peine.
C'est où? C'est, comment ça s'appelle encore? Parce que moi, j'ai déjà entendu parler de Val d'Isère, évidemment.
Ouais, c'est en pas très loin. C'est Val Thorens.
Val-Thorens.
Ouais, en France. Je pense que c'est à une heure ou à peine, ou deux heures peut-être, de Val d'Isère. Mais c'est les trois vallées, plus de 600 ou 650 kilomètres de piste à rouler. Quoi. C'est un terrain de jeu à l'infini. Là. C'est incroyable, les vues, le plaisir qu'on a eu là. Puis, c'est ça, c'est une méchante belle expérience. Mais content d'être de retour avec vous aujourd'hui aussi.
Et je suis en train de lire là-dessus. Hein. Puis je vois les images, là. C'est exceptionnel, là.
C'est spectaculaire. Vraiment, on a des souvenirs, on va avoir des photos pour longtemps, puis de vivre cette expérience-là. On est un groupe de 18, 18 amis parmi un autre groupe de 30, là, mais 18 amis qui ont été là. Donc, ça a été beaucoup de moments de plaisir et des bons, du bon vin, des bons repas aussi. Les Français savent comment faire.
Hey, fantastique ça, fantastique.
Le village est incroyable.
Non, il est vraiment, vraiment incroyable. Là. Donc, tu le recommandes à les amateurs de ski qui nous écoutent en ce moment? Tu le recommandes?
Bucket list, absolument. C'est une des plus belles places au monde qu'on me dit. Je n'ai pas fait d'autres, mais plusieurs me disent que c'est la plus belle ou une des plus belles places au ski auxquelles mes amis qui en ont fait plusieurs ont été. Fait que ça vaut la peine de mettre ça sur votre bucket list.
Ah wow, fantastique. En parlant de bucket list, là, j'imagine que jeudi soir à Boston, Canada, États-Unis, ça va être bucket list ça aussi.
Oui, absolument. Hein? Ça va être intéressant. Une belle revanche possible pour le Canada après une défaite. Là. Évidemment, j'ai pas vu les premiers jours, les premiers matchs. J'ai fait beaucoup de rattrapage depuis mon arrivée dimanche. J'avais enregistré les matchs à distance. Donc, j'ai regardé le match Canada-États-Unis. J'ai regardé les matchs du Canada aussi hier. Puis, ça va être le fun. Vraiment, l'excitation, l'émotion. Il y a très peu ou il n'y a pas de plus grande rivalité que Canada-États-Unis. Au niveau du hockey international, puis j'ai hâte de voir la façon dont on va approcher ce match-là. Tu sais, évidemment, les trois bagarres dans les neuf premières secondes a donné le ton au premier match pour les Américains. C'était vraiment dans leur identité, c'est leur idée et leur façon de faire. J'ai hâte de voir si on va essayer de tendre un piège le même, un différent, si le Canada va embarquer ou si le Canada va imposer son propre piège dans sa façon de jouer. Donc, il y a plusieurs facteurs, puis c'est là pour moi que le coaching va devenir important aussi des deux côtés.
Alex nous disait, les Bruins de Boston, ils ont sorti avec un tweet plus tôt ce matin.
Ouais.
Regarde ça, c'était à 10h30 pile. 10h30 pile. Et ça dit, Charlie McAvoy était admis à l'hôpital général de Massachusetts lundi. Pour faire des tests, une blessure haut du corps qu'il a été victime lors du tournoi des Quatre Nations et sous évaluation par le docteur des Bruins, Dr. Peter Asnes. Il ne jouera pas pour l'équipe USA dans le tournoi des Quatre Nations jeudi au TD Garden. Les Bruins de Boston vont donner plus de détails sur sa condition dès le moment que ça devient dispo. Ouais. C'est une lourde perte, mais je suis un peu surpris que ça vienne des Bruins et pas des équipes de l'équipe des États-Unis. Est-ce que c'est un peu surprenant ou non?
Ben, c'est peut-être. Ça peut être surprenant, mais ça l'est pas dû au fait que joueur de Boston, on joue à Boston, il est à maison, donc il est capable. En fait, c'est un privilège peut-être pour lui d'avoir accès à ses propres médecins, vu qu'il est déjà dans la ville.
Ouais.
Fait que c'est peut-être un genre de raccourci, si tu veux. Peut-être que le communiqué comme tel, peut-être surprenant que ça vient pas de l'équipe américaine. que ça vient des Bruins de Boston, mais le fait qu'on utilise les docteurs puis ce lien de confiance qu'on a déjà en place, ça me surprend pas. Mais c'est Connor McDavid qui va être content aujourd'hui, par exemple, de savoir cette nouvelle-là, parce qu'on se souviendra dans le premier match entre les deux, il a fait la vie dure à Connor McDavid physiquement à plusieurs reprises, l'a sorti de la zone de confort à plusieurs moments, puis c'est un gros morceau pour les Américains, évidemment, dans le style qu'ils veulent jouer, le style un peu plus rugueux, un peu plus intense, physique, c'est un gros morceau à la ligne bleue des Américains. Donc, évidemment, ça va laisser un gros trou et ça va peut-être permettre avoir un peu plus de liberté, un peu plus de place aux joueurs rapides du Canada de rentrer en territoire adverse, de se rapprocher un peu plus du filet, parce que c'est un gars qui peut être intimidant par moment, Charlie McAvoy.
Ouais, c'est... écoute, les Bruins, l'équipe États-Unis sont en train de parler avec la Ligue nationale de hockey, évidemment, pour avoir un emplacement pour Charlie McAvoy. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais comme j'ai dit à Alex plus tôt ce matin, là, je gagerais la maison là, que les frères Kachuk vont être là. Là.
Ben écoute, il y a beaucoup, beaucoup de fierté. Si ces gars-là ne sont pas là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui leur aura dit qu'ils ne peuvent pas jouer. Ça, c'est mon opinion à moi. Parce que des gars comme ça, des gars de cœur, des gars de caractère, pis c'est des gars qui vivent pour les grands moments, vivent pour être sous les projecteurs, c'est certain que il faut qu'il y ait soit de quoi de casser ou qu'il y ait un docteur qui les empêche littéralement d'être là. Dans les deux cas, j'aurais tendance à dire ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on voit, les deux joueurs seront en uniforme. Le problème, c'est à quel niveau de forme est-ce qu'ils seront? T'sais, est-ce que c'est 100%, est-ce que c'est 80%, 60%? Puis ça peut avoir un impact. Des gars comme ça ont souvent le cœur pour négliger un peu les blessures. S'ils sont à 60 physiquement, ben leur fougue, leur intensité, leur caractère leur permettra de jouer à 80, 85, 90 et vont et peuvent avoir un impact nécessairement dans chacun des matchs. Mais moi, je m'attends à ce que ces gars-là soient là. Puis ça, c'est bon parce que j'ai l'impression que eux, ce sont deux chauffeurs d'autobus. Au niveau d'expression, t'as des gars qui sont en avant qui chauffent l'autobus, t'as des gars qui sont en avant, t'as des gars qui sont en arrière qui suivent. Mais tu sais, ces deux gars-là, ils ont le volant. C'est deux gars qui amènent leur équipe au niveau émotif, au niveau intensité dans l'action, les amènent à la guerre, puis ils ne donnent pas le choix à leurs coéquipiers de les suivre. Dans chacune de leurs équipes respectives dans la saison, et dans cette équipe-là aussi, on l'a vu contre le Canada, c'est eux qui ont donné le ton au début de match. Fait que je m'attends à ce qu'ils soient là, puis c'est des pièces très, très importantes pour les Américains.
Denis, parle-moi des défenseurs du Canada. On va aller un par un. On va commencer avec Devin Taves.
Ben, Devin Taves, pour moi, c'est un défenseur qui est beaucoup sous le radar. Quand on parle de joueurs, vedettes, de joueurs importants, c'est rare que son nom ressort, parce que surtout, en plus, qu'il joue dans l'ombre de Kyle McCarr au Colorado, mais c'est un gars qui a développé sur le tard. C'est un défenseur extrêmement mobile, qui est capable de sortir du trouble en patinant la rondelle, est capable de sortir du trouble en passant aussi. Il a un excellent tir qui aide énormément normalement sur le jeu de puissance, mais c'est un joueur qui est versatile. T'sais, sa lecture de jeu, son intelligence au jeu est vraiment au-dessus de la moyenne qu'il est. Fait que ça devient un défenseur qui bouge la rondelle de façon exceptionnelle. Donc, une belle pièce pour le Canada.
Travis Sanheim.
Travis Sanheim, c'est un grand bonhomme qui est pas nécessairement le plus gros, mais c'est un gars qui bouge très bien quand même, malgré ses quoi, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Là. C'est un gars qui bouge bien la rondelle, qui peut normalement avec les Flyers être un peu plus à risque offensivement, mais quand même assez intelligent, assez bon puis mobile pour revenir défensivement. Il peut se faire prendre offensivement à l'occasion, mais dans ce tournoi-là, je trouve avec Lou Dardy, forme une paire qui d'une troisième paire qui est stable, qui joue bien, mais c'est un excellent défenseur, je te dirais. Si on parle d'attaquant de 200 pieds, dans le tournoi, moi je vois un excellent défenseur de 200 pieds, capable de jouer des deux côtés de la rondelle sans problème.
Il donne les revirements. Moi, c'est le gars, il me fait peur. Il me fait peur. Moi, j'ai vraiment aimé Thomas Hurley l'autre soir, là, mais Sanheim, il est gaucher, puis Hurley est droitier, là, tu sais.
Je comprends. Donc, on veut un gaucher, un gars droitier avec lui et Dowdy. Mais, tu sais, peut-être que les responsabilités vont changer contre les Américains. Oui, effectivement, il va faire des revirements, mais, tu sais, de façon générale, c'est un défenseur qui va lui amener une certaine stabilité. Puis, il n'est pas là pour rien, tu sais. Fait que, c'est un gars qui, comme je disais tantôt, qui a un certain flair offensif, qui est capable d'amener la rondelle offensivement. Mais, tu sais, ces gars-là qui sont un peu plus offensifs, À l'occasion, on va faire des revirements. Parce qu'ils ont la rondelle, ils essaient des jeux. Donc, tu regardes Sidney Crosby hier à 3 revirements. Il a connu un excellent match hier. Il a bien répondu. Mais il y a quand même 3 revirements. Mais ça a été un des meilleurs joueurs du Canada hier. Ouais. Les gars qui ont la rondelle vont faire des revirements à l'occasion. Puis ça va. C'est juste la loi de la moyenne.
Kale McCarr a raté le match de samedi à cause d'une maladie. Il a joué hier 23 minutes 57, plus que n'importe quel autre défenseur du Canada. Ouais. 4 lancers plus que n'importe quel défenseur du Canada. 4 lancers bloqués à égalité avec Josh Morrissey. Il était plus un hier. Parle-moi de Kale McCarr.
Ben, je veux pas tant perdre mon temps sur Kale McCarr parce qu'il y a rien que je peux vous dire qu'on connaît pas déjà sur lui ou qu'on n'a pas déjà dit. Puis tu sais, je dis ça de façon sarcastique, mais c'est peut-être le meilleur défenseur de la Ligue nationale qui joue sur les deux côtés de la rondelle. Offensivement, il y a très peu ou il n'y a pas de défenseurs dans la Ligue nationale qui ont sa vision, puis qui ont son audace, puis qui est capable de créer des jeux à partir de rien. Et défensivement, c'est un gars qui a un excellent bâton, qui est fort, qui est physique à l'occasion quand qu'il a besoin de l'aide, puis c'est un gars qui est responsable. Fait que c'est pas un gars qui se fait prendre nécessairement souvent dans son propre territoire. Ses relances, ses transitions, son jeu de passe, son jeu de pied, c'est élite partout. Fait que je suis pas très original en vous disant tout ça. On l'a tout déjà su et on l'a tout déjà vu. Mais ça reste que c'est peut-être pour moi le meilleur défenseur de la Ligue.
Mon erreur, puis j'ai été corrigé, Thomas Hurley est définitivement gaucher. Je sais pas où est-ce que j'ai sorti ça avec le droitier. Je pense que je l'ai mélangé avec Doughty. En tout cas, Thomas Hurley est gaucher. Travis Sanheim est gaucher aussi. Donc, c'est corrigé. Merci beaucoup. À tout le monde qui m'ont envoyé des textos pour me le dire. Là. OK. Josh Morrissey.
Dans le cas de Morrissey, c'est un défenseur qui est pas le plus gros gabarit, mais c'est un gars qui a du coffre quand même, mais c'est un gars qui est en smooth en anglais, tu sais, qui est très très mobile, qui bouge la rondelle de façon très dynamique. C'est un gars qui est très productif aux deux côtés, sur deux côtés de la rondelle. Il y a un gros tir de la pointe pour un jeu de puissance. Puis c'est un défenseur qui est capable aussi non seulement d'être un des très bons défenseurs offensifs de la Ligue. C'est presque un point par match, je pense. Là, si j'ai pas regardé, là, mais statistiquement avec Winnipeg qui connaît une bonne saison, mais c'est aussi un défenseur qui est capable d'être un shutdown defenseman, qu'on est capable de jumeler contre le meilleur trio adverse en temps normal, puis de faire un travail défensif très, très, très respectable dans son cas. Puis on. Donc, pour moi, c'est un des bons défenseurs. Puis un autre défenseur, je te dirais peut-être même chose que Devontae, qui est très sous-estimé. On parle des meilleurs défenseurs de la Ligue. C'est rare que son nom sort là, mais il fait partie des très bons défenseurs. Colton Parayko, pour moi, c'est un défenseur, c'est un monstre. C'est un gros défenseur droitier qui, malheureusement, par moment, dans son cas, puis ça, c'est juste mon opinion, mais on voudrait des fois qu'il soit un peu plus physique dans son cas. Il est pas aussi physique que son gabarit te laisserait croire. C'est un gars de 6 pieds 5, 6 pieds 6, 200, à peu près 230, 235. Mais c'est un gars qui a un rôle très défensif, qui a une idée qui est très défensive. C'est pas un gars qui veut se porter à l'attaque très, très souvent. Puis il a beaucoup de mobilité, puis il a un gros lancer de la pointe aussi. Fait que dans son équipe... À Saint-Louis, bien évidemment, les choses, ça lui sert. Ici, il joue dans un rôle qui, je trouve, qui compte très bien, un gars comme Morrissey. Dans une paire, généralement, on va les faire jouer ensemble ou en tout cas, à plusieurs moments, quand on change pas les duos. Puis, tu sais, t'as le joueur qui est un peu plus offensif, mais aussi responsable défensivement. Fait que c'est un gars qui peut jouer beaucoup de minutes puis qui peut tuer beaucoup de pénalités, mais c'est un gars qui a peur de pas grand-chose. Je disais que c'est pas le joueur le plus physique nécessairement, mais... Il a pas eu peur de répondre à JT Miller. On se souvient contre les Américains qui était la troisième bagarre là. Puis aussitôt qu'il a vu que Miller avait jeté gain, il a viré la tête. Il dit OK, j'ai peur de rien, on y va. Puis c'est un gars qui mériterait peut-être de jouer. Pas qu'il mériterait, mais qu'on aimerait qu'il soit une présence un peu plus physique, constante. Mais dans le tournoi, pour moi, il remplit bien son boulot.
Et juste avant d'aller à la pause, Drew Doughty.
Ben Drew Doughty, pour moi, c'est ça a été une belle découverte pour moi, son année recrue. Moi, son année recrue, c'était ma dernière saison dans la Ligue nationale. On était à Los Angeles ensemble, on a joué un an, puis il n'a pas cessé de m'impressionner du jour 1 qui est arrivé au camp d'entraînement à aujourd'hui. Son évolution, son développement. C'est un gars qui est 200 pieds, complet, mature, calme avec la rondelle, est capable d'être physique au moment. même si c'est pas le défenseur plus gros, mais il a pas peur de grand-chose, puis c'est un gagnant. C'est un gagnant qui, pour moi, a eu un impact ou une influence majeure lorsque les Kings ont gagné leur Coupe Stanley. Puis c'est un gars qui a appris à modifier son jeu, puis avec l'âge, là, à 30, quoi, je suis pas sûr, il est autour de 34 ans, 30, 33, 34, 35 ans. C'est un gars qui a appris à, tu sais, pas modifier, mais à adapter son jeu avec, tu sais, avec la vieillesse, son ralenti, il y a eu des blessures, tout ça, puis c'est un gars d'équipe capable de laisser la place autour de lui, avoir le spotlight. Lui, il est juste content d'être là. C'est un défenseur qui a raté la plus grande majorité de la saison dans l'Ligue nationale, il a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, il a eu l'appel, a répondu présent, puis c'est un vrai gagnant.
OK, les gars, on a posé la question à Brad Marchand. Si l'intensité des quatre nations peuvent donner aux Bruins un peu de momentum, un peu d'adrénaline, tu sais, à la sortie, quand le hockey va commencer de nouveau. Puis Brad Marchand, il regarde le gars et il dit, hein, « I don't know, dude. I'm not thinking about that right now. » Je sais pas, man. Je pense pas aux... Il est en train de dire « Je pense pas aux Bruins en ce moment. »
C'est sorti la tête complètement de cette sphère-là.
Mais c'est ça. C'est la réalité. Ah, Denis, le gars, il pense pas aux Bruins. Il y a un match à jouer pour gagner la Coupe des Quatre Nations. Là.
Ça paraît très, très mal. S'il disait « Oh, tu sais, il se mettait à parler de la situation des Bruins présentement. » Puis ça, pour moi, c'est ça l'engagement d'un athlète canadien qui porte le chandail avec la feuille d'érable. C'est un engagement pour, je dis pour les Canadiens, mais c'est la plupart ou tous les pays, mais quand t'es là dans le moment, c'est une grosse scène, c'est un grand moment, puis tout ce qui vient avec la rivalité présentement, puis surtout la scène qu'on est en train de mettre en place avec le clash américain et canadien dans tout ce qu'on connaît présentement avec la politique et le sport. Lui, il est engagé là-dedans. Il est engagé avec l'équipe canadienne, puis c'est un bon message d'envoyer à tes coéquipiers tout le temps. C'est un bon message d'envoyer à tes entraîneurs pour dire que, tu sais, moi, là, peu importe ce qui se passe avec les Bruins, je gérerai ça vendredi. Ça, jusqu'à jeudi, lorsque la finale, quand la finale va être jouée, jusqu'au dernier coup de sirène, pour réellement, je suis investi pour le Canada. Puis ça, c'est une belle réponse. À mes yeux, à moi, c'est un gars qui est 100% engagé dans le moment, puis il vit le moment présent.
J'imagine qu'on peut dire là, que c'est Jordan Binnington qui va jouer le match final jeudi. Là. Ça a été lui à date. Là. Même s'il était, il a donné peut-être un, deux mauvais buts face à la Suède, il était là pour le deuxième match face aux États-Unis. Le premier but était un mauvais but. Peut-être le deuxième. Il était là pour le troisième match aussi. Hier, moi, je pense que sur trois buts, il en a donné un qui était mauvais. C'était le deuxième but, le premier but du match de Granlund. Mais... on peut s'entendre pour dire que ça va être lui, là?
T'as aimé le premier?
Non, le premier but de Granlund entre les jambières.
Non, le premier but du match des Finlandais.
Pour moi,
le tir de Linda.
Pour moi, c'est un 50-50. C'est un 40-60.
Je trouve qu'il doit faire l'arrêt, là-dessus.
Moi, je trouve que c'était définitivement arrêtable.
Ben oui.
Mais pour mauvais but, je ne sais pas. C'était un bon tir. Le deuxième but était un mauvais but. Ça, c'est sûr.
C'était épouvantable. Il était partout. Mais ça, Denis, qu'est-ce que t'en penses, toi, le premier but?
Ben, le premier but, sur le coup, pour vrai, j'ai cru un mauvais but accordé en le voyant, mais en voyant les reprises, en réfléchissant, tout ça, j'ai pas aimé que Lindell ait été capable de rentrer en dedans des points de mise en jeu. Il a reçu la rondelle en dehors, il a été capable de la rentrer au milieu. Fait que, tu sais, c'est un tir qui est dangereux, mais en voyant les reprises, c'est un tir parfait. Tu sais, juste à la droite de Bennington, frappe le poteau rond. C'est un tir parfait. Tu sais, tu donnes à Lindell l'occasion de tirer 10 fois de là, il va marquer une seule fois. C'est juste le moment était là. Puis j'aurais aimé, il aurait été capable de faire l'arrêt Bennington, mais je suis pas convaincu que c'est un mauvais but. C'est pas ça. C'est probablement un but qu'il aurait pu arrêter. Mais tu sais, cela dit, moi je pense que présentement tu regardes les deux alignements, puis c'est vraiment là pour moi que les Américains ont l'avantage. Tu sais, c'est dans le filet. Dans le cas de Hellebuck, tu sais. Son parcours parle pour lui-même présentement avec les Jets de Winnipeg. Sa carrière est incroyable, mais n'a jamais réussi à gagner le ou les gros matchs. T'sais, moi, c'est ça qui... Je vais me reposer là-dessus. Là. Bennington, quand même que ça a été une surprise ou ça a sorti de nulle part, il l'a gagné à Coupe Stanley. Il a gagné des matchs importants pour son équipe avec les Blues. T'espères qu'il est capable de retrouver ce moment-là puis d'être capable de retrouver le feeling d'être d'être compétiteur puis de dire ce soir, là, tu vas peut-être en gagner 7, tu vas peut-être en gagner 8 sur 10 contre moi, Hellebuck, mais ce soir, c'est pas ce soir que ça va arriver. Puis j'espère qu'il va répondre présent pour les Américains. Parce que tu regardes tous les jeux qui l'aident. Moi, j'avais ma tête de défenseur, surtout parce que j'ai écouté le match contre la Finlande ce matin en reprise. Puis moi, le travail des défenseurs tellement plus facile parce qu'il sort de son filet, ouais. Parce que c'est lui qui prépare les sorties de zone. Puis sur le match, je pense que le premier et le troisième but, si je me trompe pas, c'est deux occasions où les Finlandais ont réussi à faire remettre la rondelle dans le territoire, faire le tour derrière le but, puis il est pas sorti. Puis en dedans 10 secondes plus tard, le but était marqué. C'est une des rares fois dans le match où il a pas été capable de sortir puis arrêter, ouais, la rondelle. Puis ça l'a mené à ces buts-là. Fait que, tu sais, comme défenseur, c'est un troisième défenseur. C'est un joueur qui vient aider les sorties de zone, qui vient couper l'attaque adverse, qui vient couper l'échec avant de l'adversaire. Fait que tu vas compter sur le fait qu'on est capable de donner, de pas donner la ligne bleue offensive aux Américains jeudi, qu'on va être obligé de remettre des rondelles dans le territoire puis que Binnington est capable de sortir. À partir de là, le Canada a tous les éléments en place, les joueurs qui semblent, où on espère vont retrouver confiance contre les Finlandais, les joueurs comme McKinnon, Crosby, tous les joueurs, les meilleurs joueurs qui doivent être les meilleurs joueurs. T'espères que les points marqués contre la Finlande vont remettre les pendules à l'heure puis vont donner confiance qu'ils vont être capables de gagner puis de marquer assez de buts pour les battre.
Denis, en tout respect pour Jordan Binnington, on est plusieurs à penser que l'entraîneur des gardiens de but, qui est l'entraîneur du Hockey Canada, qui est l'entraîneur des gardiens de but des Blues de Saint-Louis, puis Doug Armstrong, qui est un des directeurs généraux de cette équipe-là, qui est le directeur général des Blues de Saint-Louis, ont eu vraiment leur mot à dire. Moi, ma question pour toi, puis on sait pas la réponse, mais un gars comme John Cooper, qui a tellement du poing, il a tellement du pouvoir, tellement de respect, là, il est tellement réputé comme un des grands, là, ça se peut-tu qu'il se fait imposer un gardien de but? Ça se peut-tu?
Ça se pourrait. Tu sais, c'est une organisation. C'est sûr que tout le monde se consulte, tu sais, pour avoir soit participé, pour avoir été dans un événement, pour avoir joué, ou tu sais, mon fils dans certains tournois. C'est sûr qu'il y a une certaine politique qui joue à des moments. Puis tu sais, quand je dis politique, je fais attention parce que c'est pas nécessairement je veux que mon gars passe à tout prix parce que c'est juste je le connais puis ça. Ces gars-là veulent gagner pareil. Tu sais, Armstrong là, qui est déjà cette organisation-là, veut gagner pour l'équipe canadienne. Tu sais, la chose qui est importante, c'est je prends-tu un risque avec un gars que je connais pas puis que je vais rentrer un hill ou un montambo à un certain moment donné dans le tournoi, ou je vais faire confiance au gars qui m'a déjà gagné une coupe cette année. Tu sais, fait que c'est un peu ça des fois le processus. Il y a des débats, des fois, mais à un certain moment donné, ça prend juste quelqu'un qui tranche. Avec cette équipe-là, je ne sais pas c'est qui tranche. C'est-tu Cooper? C'est-tu Armstrong? C'est-tu le coach des gardiens de but? Ça prend quelqu'un à un certain moment donné qui dit, ben regarde, j'ai entendu toutes vos opinions, j'accepte et je comprends tout ce que vous me dites. Maintenant, ma décision, c'est ça. Puis cette personne-là devra vivre avec les fleurs si on gagne ou les conséquences, les peaux si on perd. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que, mais ça se peut que John Cooper et lui aient une opinion différente, mais c'est peut-être pas lui qui a le plus gros poids dans l'organisation pour prendre cette décision-là.
C'est vrai qu'il joue la rondelle mieux que les autres gardiens de but, par exemple. Ça, c'est vrai.
Absolument. Puis c'est un gros... Puis pour vrai, là, dans un tournoi comme ça, où l'échec avant est à son meilleur parce que tout le monde est engagé, est intense, puis t'as tous les meilleurs joueurs, cet aspect-là du match, il faut pas le négliger. Faut absolument pas, parce que ça vient couper l'échec avant, ça va être tes défenseurs, et plus vite tu sors de ton territoire, plus vite tu peux t'amuser dans le territoire offensif, puis les joueurs du Canadien en ont profité beaucoup contre la Finlande hier.
C'est intéressant, ça.
Denis, merci beaucoup, on va se parler jeudi. As-tu quelque chose, Alex?
Non, il n'y a pas de problème, Tony.
OK. All good. Merci, Denis, à jeudi, mon chum.
À jeudi, salut, bonne journée.
Le voilà. Bye-bye. Ouais, on va aller à la pause, puis au retour, parce qu'on a posé la question à Alex plus tôt ce matin, question du jour dans le forum, qu'est-ce qui vous rend confiant et qu'est-ce qui vous inquiète de l'affrontement final du tournoi des quatre nations? Textez ou appelez. Il y a plusieurs réponses qui ont déjà rentré. On va les lire en ondes, plusieurs textes, on va les lire. Puis on va prendre peut-être un ou deux appels.
Je veux donner tout le crédit à Pierre Dorion pour l'extrait que je vais te faire entendre là, parce que je trouve ça ultra pertinent. Vas-y. De faire jouer aujourd'hui.
Oui.
Puis je le dis parce que ça s'en vient, les quatre nations.
Pourquoi?
Le fait qu'un de tes gros joueurs pourrait se blesser, c'est le plus grand cauchemar je peux te le dire tout de suite, là, plusieurs DG à travers de la Ligue, ils espèrent pouvoir passer ce tournoi-là sans aucune blessure. Ces gars-là, tu peux pas les remplacer. Puis, si t'en vas en série, si c'est une blessure sérieuse qui le gars peut pas jouer d'ici la fin de l'année, ou si le gars, il est blessé, puis ça a un impact qu'il ne soit pas en série, je peux te dire que moi, je serais DG encore pour une équipe qui aurait des joueurs-là. Je prierais à toutes les soirs pour que mon gars ne se blesse pas.
Wow. Il était déçu, hein?
Ouais.
Avec ce qu'on voit, bon, là, les Ketchuk, c'est en train de sortir qu'ils vont jouer jeudi. Là,
Charlie McAvoy.
Avec McAvoy.
Shea Theodore pour le Canada.
Shea Theodore. Tu sais, tu vois des gars qui se sont blessés au fil du tournoi. Ouais. Le tournoi n'est pas fini, là. Puis il y en a sûrement qui ont. Crosby qui a peut-être empiré ses blessures.
Ouais.
Il était direct dessus.
Depuis que j'ai pu le connaître, j'aime bien Pierre Dorion après l'avoir rencontré à notre party de Noël.
Ouais.
De BPM Sport ici, dont Pierre Dorion, collaborateur régulier dans l'émission de Martin Lemay, Le Retour des Sportifs, parmi tant d'autres aussi. Salutations à Pierre Dorion et à Martin Lemay et tout le staff.